Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Astien et je suis accompagné aujourd'hui de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Astien.
Et nous accueillons Dorian François des éditions du Silence. Bonjour Dorian.
Bonjour Astien, bonjour Cyrus.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ?
Je m'appelle Dorian François et je suis l'auteur et l'éditeur via les éditions du Silence du jeu Le Cortège.
Et je vois que tu as voulu être vraiment fidèle au nom de ta boîte, puisque tu n'as plus beaucoup de voix.
je perds toujours ma voix. Alors là, un festival avec du bruit, c'est le troisième jour, je la perds. Même sans animer.
C'est ça qui est fort. C'est là qu'on voit vraiment cette envie, tu vois, d'être vraiment fidèle à soi-même. Donc il y a des éditions du silence. Bon Dorian, on va démarrer cette interview par un petit fil rouge. Voilà, c'est un ensemble de questions qu'on pose à tous nos invités. Et cette année, le fil rouge, en fait, y a un petit souci. Voilà, on a recruté un stagiaire et on n'est pas certain que les réponses que tu vas nous faire vont se retrouver en face des questions qu'on t'a posées, malheureusement. Du coup, le petit jeu pour les auditeurs, ça va être d'essayer de replacer les jeux, parce qu'en fait, toutes les réponses vont conduire au nom d'un jeu. Voilà. Après, si c'est pas le cas, c'est pas très grave, on s'arrangera, t'inquiète pas. Les auditeurs devront essayer de replacer donc le nom des jeux en face des bonnes questions. Et puis, on donnera la réponse quand même au bout de 10-15 jours dans le biais de l'émission, hein, pour être sûr que pour la postérité, t'es pas dit complètement n'importe quoi. Voilà. Alors, je vais démarrer avec la première question. Dorian, quel est ton jeu Madeleine de Proust ? Un peu le jeu de ton enfance, toi, qui te rappelle des bons moments.
On Mars, de Vital Lacerda.
Ok, pas du petit quand même. Hein.
Non, je suis plutôt un gros joueur, en fait.
Ok. Quel est ton genre de jeu préféré ?
Le jeu de tarot.
Le tarot, ouais.
Ouais. Okay. Ouais, génération oblige, je pense. Mais le tarot, je l'ai appris il y a 5 ans sur les genoux de ma grand-mère.
Ok.
Ouais, vraiment un bon petit souvenir d'enfance. Et quel est ton jeu préféré dans ce genre ?
En fait, j'allais dire que j'en ai pas parce que je passe beaucoup de temps à bien choisir ce qu'on a dans ma ludothèque et à virer les jeux dès que j'y joue pas ou dès qu'ils m'ont pas plu. Donc j'ai pas beaucoup de jeux. En fait, je suis quelqu'un qui est même pas 30 jeux, je crois. Mais en fait, je pense celui dont j'ai honte, et c'est le jeu de Mahjong que j'ai dans une très belle petite mallette depuis très longtemps, mais que je n'ouvre jamais, mais dont je n'arrive pas à me séparer parce que c'est vraiment trop joli. Et que j'ai une petite histoire avec la Chine, donc je crois que c'est pour ça que je le garde.
Voilà. Ok. Peux-tu citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque, mais dont tu as honte ?
C'était Match.
Ok. Okay. Ouais.
Très bien. Alors maintenant, tu pars pour 3 semaines. C'est pas rien, quand même, 3 semaines. Mais tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Tu prends lequel ?
Les jeux de stratégie et gestion.
Ok.
S'il faut faire des cases.
Tu es invité à une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Et tu dois ramener un jeu. Lequel prends-tu ?
Pour le coup, Pingouin est un jeu que j'aurais bien aimé inventer parce que je trouve que c'est hyper efficace, c'est hyper malin, c'est court. C'est vraiment super.
Ok. T'avais prévu un tournoi de challengers à 8 personnes, mais tous tes amis t'ont lâché. Vous vous retrouvez à 2. Tu sors quel jeu ?
Je vais pas prendre On Mars ce coup-ci.
Tu as le droit, hein ? Ouh là là.
Non, pas ce cool. En ce moment, je dirais que je pense que je vais prendre Pingouin.
Ok.
Ça vous parle, okay. Pingouin ?
Ah ouais. Ouais, très bien. Hein.
C'est le petit jeu avec les... C'est
avec les pingouins.
Ouais, mais les trucs que tu vas enlever au fur et à mesure.
Ouais, les trucs octogonales avec la banquise qui font les petits poissons qu'il faut attraper, qui était Hey, that's my fish, je crois en anglais.
Ah ouais, c'est ça. Ouais.
Et je suis très très fan de ce jeu.
Okay.
C'est un jeu que j'aurais bien aimé inventer.
Un très gros jeu encore, hein, on voit.
Ok.
Quel jeu aurais-tu aimé inventer ?
Sans considération d'avec qui je pars ou je pars tout seul ?
Comme tu veux.
En vrai, je vais être d'accord, hein, je vais redire On Mars, hein, je vais prendre mon jeu préféré.
Ok. À quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de cette interview ?
Jekyll versus Hyde.
Très bon choix.
Écoute Dorian, on va démarrer maintenant le cœur de cette interview, hein, la vraie interview. Désolé, c'était pas ça. C'était facile jusque-là. Presque. Ouais, peut-être pas, tu vas voir ça. Peut-être que le reste sera plus facile finalement. Déjà, pour commencer, les éditions du silence. Est-ce qu'avec ce nom, t'espères faire du bruit dans le milieu du jeu de société ?
Non, carrément pas. Mais les éditions du silence, à la base, c'est parce que c'est une histoire familiale, en fait. À la base, c'est mon père, pour le coup, qui a fait une boîte de production qui s'appelle Les Films du Silence, sur l'audiovisuel, et sur laquelle j'ai rajouté, en fait, l'opportunité de faire des livres, à la base. Parce que moi, à la base, je suis photographe et auteur.
D'accord.
Je fais des livres de photos et de littérature, d'où les éditions du silence, pour l'histoire des silences intérieurs, des histoires intimes, on va dire. Voilà.
Ok, c'est effectivement ce que j'ai vu sur ton site et en parcourant un petit peu les pitchs des, les synopsis, comme ça qu'on dit pour les livres.
Ou les résumés.
Ouais, les résumés des livres, effectivement, c'est un peu ce que j'ai ressenti, qui transparaissait de ces ouvrages. Ouais, d'accord, bah, je comprends mieux du coup. Ok.
Et t'as créé les éditions du silence il y a combien de temps ?
En 2017. C'était pour la... 2017. Pour un livre qui s'appelait Solitude, qui était un livre sur un an de voyage en Chine.
Ok,
D'où le Mahjong.
Ok. Parce que t'as voyagé en Chine et t'es quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça t'a inspiré sur des choses, justement ? Donc sur l'écriture, j'imagine ?
Ouais, j'ai beaucoup voyagé, en gros de 18 à 30 ans, on va dire. Énormément en Asie. J'ai passé un an et demi en tout en Chine, une année en Mongolie et 2 ans en Inde. C'est un peu mes trois grosses autres vies, on va dire. Et oui, je voulais faire des photos, raconter ces pays. Puis finalement, je me suis raconté un peu moins à travers tous ces pays dans des récits intimistes et sur des photographiques.
Voilà. Super.
Ouais. Okay. Du coup, ça, c'est ton activité à plein temps, ça ? De ces ouvrages, tu fais autre chose à côté ?
J'ai eu plusieurs moments. Non, c'est pas mon activité à plein temps parce que c'est très compliqué d'en vivre. Mais c'est mon activité à plein temps de cœur et d'action. Après, je me démerde comme je peux. Mais moi, pendant 15 ans, j'ai fait de la restauration.
Okay.
Après, j'ai fait que de la photo pendant pas mal d'années. J'ai travaillé dans le maraîchage. J'allais dire, j'ai été maraîcher. Alors, c'était pas ma ferme, mais j'ai travaillé dans le maraîchage pendant 2 ans, là, beaucoup plus récemment. Et là maintenant, je suis à fond sur les éditions et donc le jeu. Mais je travaille en boutique de jeux en saison.
Ok.
Voilà.
Qu'est-ce que tu appelles en saison ?
Une fin d'année, novembre, décembre et un petit peu l'été.
Ouais, okay, là où il y a besoin de renfort.
Où il y a besoin de renfort, exactement.
Ok, d'accord, je comprends.
Voilà. Donc je ponctue un peu et je fais encore un petit peu de travail en photo.
Ça se passe comment la distribution de tes livres ? Enfin, déjà, si on parle de la partie livre, tu fais tout toi-même ça fonctionne comment ?
Sur les livres, j'ai vraiment tout fait moi-même. En gros, j'ai toujours tout fait moi-même. Je suis allé voir les libraires, j'ai fait des grands tours au début à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. J'ai rencontré les libraires en direct, j'ai fait du dépôt-vente, de l'achat ferme, je me redéplace, je fais des événements. Quand je fais des expositions, je vends les livres. Quand je fais des projections, de rares fois, des sortes d'interventions, / conférences, / ça dépend du projet.
T'es basé dans quel coin ?
Moi, je vis à Nantes.
T'es sur Nantes ? Okay. Ouais. Et alors pour ton jeu, j'allais dire les jeux, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y en a qu'un.
Oui.
Donc c'est le cortège. Alors juste quand même pour rappeler, on te fera faire une petite présentation rapide du cortège par toi-même, hein. Mais si ça intéresse les auditeurs auditrices, il y a eu une émission qui a été réalisée chez Proxyjeux qui s'appelle dans le format T'as joué à quoi, dans lequel Cargo donc a parlé du cortège. Et donc c'est ce qui a d'ailleurs provoqué cette envie de venir t'interviewer. Donc voilà, les auditeurs auditrices peuvent aller se tourner vers cette émission-là. Donc bref, donc le cortège, comment t'as trouvé un distributeur pour le cortège ?
Oui, c'est Novalis. Qui distribue le jeu.
Ok. Ça s'est passé comment, ce rapprochement vers Novalis alors que tu dis que tu as distribué toi-même tes livres, là, tu n'as pas eu la même démarche ?
Ouais. Moi, du coup, je refais peut-être rapidement l'historique de comment c'est venu.
Vas-y.
C'est allé assez rapidement. Donc là, on est au Fiche 2024, donc Fiche 2023. Donc octobre 2022, si je ne dis pas de bêtises, je dis peut-être n'importe quoi.
Ça paraît cohérent.
Ouais, c'est ça. C'est octobre 2022 à Nantes. La maison des jeux de Nantes et les CMA et l'Assos Ludique, qui sont donc toutes des associations autour du monde ludique, on fait un week-end sur le thème le jeu et son message. Donc un week-end de réflexion, on va dire, pour les professionnels ou les semi-professionnels ou les aspirants professionnels du monde ludique qui étaient un petit peu dans le coin à Nantes, sur lequel en tant que bénévole de la Maison des Jeux, je suis allé avec d'autres personnes et il y avait différents modules de réflexion. Par exemple, il y avait quid de la représentativité du genre dans le monde du jeu de société, le quid des armes factices dans le jouet, donc des choses comme ça. Et il y avait un atelier création de prototypes. Okay. Donc moi, je suis un gros joueur, je joue depuis pas mal d'années, comme tout plein de joueurs, je pense, avec des potes, on a eu plein de fois des idées, on s'est dit, oh, ça serait bien si on ferait un jeu, puis on n'a rien fait. Donc je me suis dit, tiens, création de prototypes, allons voir ce qui se passe, comment ça marche. Et donc c'était assez rapide, puisqu'en 2 fois 3 heures, il fallait à la fin avoir un proto jouable et présentable à l'ensemble du groupe. Donc on était une trentaine de personnes, je peux me tromper, mais entre 20 et 30, on va dire. Comme on était sur le jeu et son message, du coup, ils sont partis du thème, ce qui est de toute façon, moi, ma façon de penser la création, toujours partir d'une histoire et ensuite aller un peu la raconter. Donc sur le jeu et son message, donc on est parti de l'idée de raconter des thèmes forts et volontairement ils nous ont demandé d'aller sur des thèmes un petit peu costauds, un petit peu qui racontaient des choses. Donc par exemple, il y a eu survivre en EHPAD, il y avait jouer des États qui repoussent des migrants. Donc il y a eu des choses comme ça un petit peu plus ou moins rigolotes, on va dire en tout
qui
cas.
Qui bousculent en tout cas.
Plus ou moins pas très rigolotes en fait.
Plus ou moins pas très rigolotes selon que voilà, pas très rigolotes dans la réalité. Et on va dire rigolotes à se dire tiens disons si on essayait de faire un jeu un peu grinçant ou qui raconte ces mécanismes là. Et puis voilà, il y a eu les mots pichenette et manifestation qui se sont rassemblés. Je me suis retrouvé dans un groupe de trois avec cette idée-là, ce travail-là. Et puis, en 6 heures, on s'est retrouvé à faire un proto qui a fonctionné, alors qui est le cœur de l'idée du cortège, mais qui n'était pas encore le cortège. Évidemment, on avait 6 heures. Donc, on a fait ce qu'on a pu. On avait une grande feuille de papier, des jetons de poker et des crayons. Et on a fait quelque chose qui correspondait vraiment à l'idée de pénétrer dans une zone et d'avoir un affrontement. Dans les trois personnes qu'on était, on était deux personnes, enfin on était plutôt tous politisés, une personne bien militante, donc on a fait ce truc là et ça a vraiment bien marché. Et du coup je me suis dit ah, il y a une bonne idée, ça fait longtemps que je crée des trucs quand même, donc je sais quand il y a des bonnes idées. Donc je me suis dit allez, faisons ça, et j'ai commencé à bosser. Et moi je pensais faire le jeu tout seul, en faire 200 ou 300 exemplaires comme je faisais avec mes bouquins et me démerder. Et puis finalement quelques mois plus tard je suis arrivé au Fige en 2023, on m'a dit mais si on demande des rendez-vous, on sait jamais, au distributeur, je l'ai fait. On m'a répondu, j'ai eu un rendez-vous chez Asmodée et Asmodée a dit non, c'est super, on y croit, on y va.
Ah ouais,
et okay. Du coup, c'est devenu 4000 exemplaires et plus la même histoire.
Voilà. Ok. Donc, tu as tiré 4000 exemplaires. Ouais. Et du coup, tes co-auteurs de la partie proto, ils sont devenus quoi? C'était vraiment trop différent? T'as pas souhaité continuer avec eux?
Non, je leur ai écrit avant le Fige, hein, très rapidement, quand moi je me suis quasiment à la sortie du week-end, je me suis décidé à me lancer en disant est-ce qu'on y va tous les trois, puis on s'organise pour bosser ensemble, ou est-ce que pour vous ça s'arrête là et puis moi j'y vais quoi,
ouais.
Puis je vous tiens au courant. Et puis ça s'est arrêté là parce que il y en a un, il m'a dit j'ai pas le temps de faire ça, l'autre m'a dit ouais pourquoi pas, et puis finalement il a jamais réécrit, il a pas suivi.
D'accord.
Donc voilà.
C'est vrai, enfin ça s'est bien passé après, ils sont pas revenus vers toi ou je sais pas quoi.
Non, pas du tout. Okay. Bah, y en a un honnêtement que j'ai toujours pas revu et l'autre Bastien, on s'est déjà revu, il a apprécié le jeu.
D'accord. Voilà. OK. C'est cool, OK, ouais. Très bien.
Super.
Ou alors s'il a pas apprécié, il me l'a pas dit. Mais...
Donc c'est l'histoire du coup de l'édition ensuite, parce que donc ils ont accepté le jeu tout ça. Comment toi quelle a été la démarche, comment a évolué le prototype? Est-ce que déjà tu avais des inspirations sur les jeux de pichenette, des références peut-être qui t'ont amené à créer le cortège?
Alors en vrai, pour répondre à la question précisément, moi j'ai cet match et j'adore cet match, mais et je fais des sports d'adresse et j'aime le principe de l'adresse, mais l'idée c'était pas la pichenette, c'était le thème et la manifestation. Donc c'est pas pour moi en tout cas, hein, c'est pas un jeu de pichenette.
Là on va pas être d'accord quand même.
Non mais je parle de point de vue de création ou d'une certaine manière d'ordre de création et de pensée, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment un jeu stratégique d'affrontement où la pichenette était juste pour moi la meilleure manière de symboliser la bousculade, l'incertitude de la situation et aussi pour dédramatiser la situation. Mais c'est pas tiens je voulais faire un jeu de pichenette et je lui ai collé un thème de manifestation, voilà.
C'est vu vraiment dans l'autre sens.
Ouais, c'est juste ça que
ça se ressent de toute façon sur le jeu, hein. Il y a un thème très très fort.
Ah d'ailleurs ouais, c'est vrai que du coup on n'a pas fait le petit pitch. Est-ce que tu peux nous pitcher le jeu comme tu le ferais, je sais pas, t'as l'habitude d'avoir l'habitude de le faire, donc tu le feras mieux que nous.
Bah, l'idée du cortège, c'est donc c'est un jeu d'affrontement stratégique pour deux joueurs où un camp va jouer un contre-pouvoir et un camp va jouer un pouvoir qui vont s'affronter dans un espace urbain, dans la rue, dans ce qui pourrait ressembler à une sorte de manifestation ou, selon mon jeu, suite à une élection, mais ça peut être autre chose. Ces deux camps s'affrontent et notamment le contre-pouvoir qui n'est pas d'accord et qui veut imposer un changement tente de pénétrer dans un lieu symbolique qui s'appelle le bâtiment, qui est un cercle bleu sur le plateau de jeu. L'enjeu pour le contre-pouvoir, c'est de pénétrer dans ce lieu. S'ils arrivent par effet d'adresse à trois pichenettes à rentrer, ils ont gagné. Ce qui veut dire qu'en face, la personne qui joue le pouvoir veut protéger son bâtiment et interpeller ces gens qui essaient d'y rentrer, puisque c'est ce qu'ils pensent, ils veulent garder un peu un statu quo de la situation. Et donc, ils vont gagner la partie, enfin, la personne qui joue le pouvoir, s'ils arrivent à arrêter tous les manifestants. Sauf que le petit twist de la partie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une arrestation de manifestants, il y a l'opinion publique qui monte en faveur du contre-pouvoir. Et si l'opinion publique arrive complètement du côté du contre-pouvoir, c'est eux qui ont gagné. Donc, du coup, il y a une gestion stratégique d'unités qui vont se rencontrer, on va jouer une chacun notre tour, il y aura des effets quand ça va se rencontrer, etc. Et le cœur du jeu, c'est qu'on joue en deux manches. Donc on joue une manche, quelqu'un va gagner, et on inverse les rôles pour voir l'histoire de l'autre côté, et c'est qu'à la fin de la deuxième manche que quelqu'un va gagner. Et s'il y a une égalité, une manche partout, il y a des façons de se départager qui sont un peu plus coquines, ça en a l'air au début, c'est plus stratégique que ça en a l'air.
Oui, effectivement, on peut... On peut jouer la deuxième manche en ayant gagné la première différemment, quoi. En plus, en contrôlant plutôt son avantage, quelque part.
Hein. C'est ça. Ouais. On peut, quand on est un peu retort et qu'on a pillé le jeu, on peut faire exprès de perdre une manche pour gagner la partie.
Ah ouais, d'accord, carrément.
On peut aussi ne pas vouloir gagner avec un des deux côtés pour des raisons qui nous regardent. Et du coup, on peut s'arranger pour que ça marche dans ce ordre-là aussi. Donc, il y a pas mal de choses à faire.
Ok. Ouais. Et est-ce que tu avais joué à des jeux comme Pitch Out ?
Oui, bien ouais. sûr. Ouais.
Parce que c'est, pour le coup, c'est un des jeux qui ressemble le plus, je dirais, en tout cas mécaniquement. Hein, je parle.
Mécaniquement, hein, ouais, parce qu'au oui. niveau de la thématique, après, on en est bien loin.
Oui, ou même le bah, c'est oui, c'est différent. Je pense que le cortège est peut-être plus. Bah,
est-ce que ça a été une inspiration, Pitch Out, pour peut-être peaufiner des choses ? Non ?
Non, pas particulièrement.
Ouais. Ou Catacombe, peut-être ?
Alors ça, j'ai toujours pas joué, il faut que j'y joue.
D'accord, ok.
On m'en a parlé, et j'ai pas eu l'occasion d'avoir une boîte. Ouais.
Okay.
Ça, j'ai très envie d'y jouer. Flick 'em Up, j'ai beaucoup aimé aussi.
Ouais, Flick 'em Up, c'est vrai, pour le coup, ouais, ça, oui, ça colle aussi.
J'ai joué la version Dead of Winter, j'avais ouais. vraiment bien aimé.
Du coup, quand même, avec cette thématique qui est la base de ton jeu, et quand même le côté pichenette, t'allais dans du jeu de niche parce que t'es sur un jeu de pichenette, tu vas dans un jeu de niche parce que quand même t'as une thématique qui est très présente et qui fait parler autour de la table, clairement. Comment tu t'as réussi à aller voir Asmodée et donc Novalis ? Comment t'as réussi à les accrocher avec tout ça, avec cet univers très spécial quand même.
Très honnêtement, l'histoire est bien, en tout cas en ce qui concerne cette rencontre, parce que j'ai pas fait grand-chose en fait. C'est-à-dire que vraiment en amont du festival, j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai envoyé une sorte de fiche commerciale, c'est-à-dire c'était un A4 horizontal sur lequel j'ai mis deux illustrations que Valentin avait fait à ce moment-là. Donc Valentin Aubry, l'illustrateur du jeu. On reparlera d'illustration, je pense. Et une toute petite accroche qui ressemble à pouvoir qui affronte le contre-pouvoir, etc. Le visuel des palais, prototypal à ce moment-là en picto, mais qui était pas très loin de ce que ça a été à la fin. Une idée de prix de vente que j'ai un peu sorti de mon chapeau à ce moment-là, parce que j'avais absolument aucune espèce de devis de fabrication ou quoi que ce soit. Et j'ai envoyé cet A4 à des mails qu'on m'a donné, et ils m'ont répondu, et j'ai eu un rendez-vous. Et je suis venu au rendez-vous avec une boîte où Valentin avait fait une couve à la va-vite, qui finalement est la couve. en termes de dessin, moi j'ai changé par rapport à cette image-là, 2-3 trucs sur le titre, etc. Mais c'était très similaire. Et le plateau, moi en fait j'avais fait un prototype avec mon imprimeur de longue date à Paris, avec lequel j'ai fait tous mes prototypes de bouquins et mes recherches depuis longtemps. Donc j'avais un plateau un peu quali, mais qui n'avait pas d'illustration, qui était noir avec une ligne rouge pour les contre-pouvoirs et un okay. cercle bleu pour le pouvoir. Et c'est tout. Et ils ont sincèrement aimé, ils se sont dit on y va.
Ouais, t'es quand même arrivé avec un produit quasi fini, quoi. Du coup, l'éditeur, il a pas eu tant de travail, enfin l'éditeur, le distributeur, je veux dire, il a eu pas eu tant de travail que ça derrière. T'avais ton produit, quoi.
Ouais, et ils l'ont pris tel quel ouais. en imaginant et en me faisant confiance, je pense, sur l'imagination de ce qu'allait devenir le plateau. Mais j'avais déjà la vision du plateau qui allait être une illustration de manifestant, on va dire, derrière la ligne rouge, une illustration d'un pouvoir qui allait entourer ce cercle bleu. Sauf qu'à ce moment-là, si je me dis pas de bêtises, quand je les ai vus, il y avait une sorte de plateau secondaire sur laquelle on venait poser les palais après chaque arrestation, les jauges étaient sur ce plateau secondaire. Je pense que c'est un petit peu des réflexes de genre de gestion de ma part. Il y avait la problématique de fermer le plateau, qui était une grosse problématique. Comment faire que les palais restent en jeu ?
Ouais.
Puisque ça, c'est un des écueils de quasiment de mes premiers essais dans le développement avec une amie où j'ai dit vas-y, on va jouer. J'ai fait mes palais, j'ai fait mes pouvoirs. Il y en avait un petit peu trop, il y avait plus de jetons, etc. Et puis elle joue, elle fait une pichenette, puis le palais tombe de la table. Et du coup, elle perd un palais, puis elle rejette un palais, puis il tombe de la table. Et du coup, j'ai fait un jeu, mais il sert à rien parce que les palais tombent de la table et du coup, il se passe rien. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va fermer le plateau parce que sinon, on va pas pouvoir jouer. Et ça a pris du temps avant de trouver l'idée qui, au final, est très simple, mais qui est venue grâce à un ami que j'ai mis du temps à trouver, qui était un petit tour en double couche, en fait, qui permet de fermer le plateau et du coup, de mettre ses jauges dans la double couche et de supprimer un plateau secondaire qui en fait n'avait pas lieu d'être pour un jeu que je voulais beaucoup plus rapide et immédiat.
Ouais.
Okay.
Voilà.
Et la rencontre justement avec Valentin, l'illustrateur, comment elle s'est passée ? C'est toi qui l'as contacté
Alors en fait, Valentin Aubry, c'est le responsable de la boutique Le Temple du Jeu à Nantes,
okay.
dans laquelle je travaille en saison depuis 3 ans.
Okay.
du coup, c'était mon responsable. Et puis, c'est devenu un ami. Et puis, quand je lui ai dit, tiens, je vais faire un jeu, il m'a dit, j'ai oublié, mais moi, je fais des illustrations. Il illustrait plus du tout. Et puis voilà. Et puis, c'est hyper bien ce qu'il illustre. Et du coup, on a fait le jeu. Et en plus, on se connaît bien, on s'entend bien, on connaît bien les jeux, on n'a pas forcément toujours les mêmes avis, mais on sait en parler. Donc du coup, c'est hyper bien pour travailler ensemble, parce qu'on peut avoir du référentiel pour discuter et pour avancer.
On invite les auditeurs et auditrices à jeter un coup d'œil effectivement à cette couverture. Hein. Elle est très marquante, je trouve. Bah, en fait, c'est une couverture en noir et très blanc. Enfin, je sais pas comment, il y a sûrement des termes techniques peut-être. Je sais
pas. Non, pas beaucoup plus que noir et blanc. Mais en tout cas, l'idée, c'était de faire un hommage au dessin de presse.
Ouais, ouais. Bah, ça se ressent tout de suite. Oui, clairement. Mais justement, il a ce style qui colle bien aussi avec la thématique. C'était un pote, mais bon, tu savais pas forcément qu'il faisait de l'illustration, j'ai l'impression, à la base.
Non, je savais pas forcément, effectivement. Mais en fait, moi, j'avais la vision de ça. Donc je lui dis, j'aimerais bien un jeu en noir et blanc, dont les palais seraient les seules couleurs. Donc en gros, ces gens qu'on incarne soient les seules couleurs du jeu. Vu la thématique, ça serait bien que ça soit un peu du dessin de presse. Moi, je suis un gros lecteur du Canard, etc. Et Val m'a dit, ah bah, ça tombe bien. Moi, je faisais des dessins à la plume, en noir, il y a longtemps. Il m'a montré des trucs. J'ai dit, mais c'est très, 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 très bien ce que tu fais. Et voilà, donc je ne sais pas quel est le style de Valentin. Je pense, je suis assez persuadé qu'il doit faire, il peut faire peut-être plein de choses différentes.
Okay, ouais.
Mais en tout cas, là... Ça lui a parlé et dès ses premiers essais, c'était vraiment bluffant, quoi.
Ouais, je sais, il y a beaucoup de symbolisme dans cette couverture, je trouve. Bah, ça nous amène à parler quand même du thème que tu as choisi pour ce jeu. Thème que tu appuies par une note de l'auteur sur ton site, alors qui n'est pas dans le jeu, hein, je crois. Hein.
C'est la couverture de livret de règles.
Est-ce que tu pourrais développer un petit peu cette note que tu as rédigée
Ouais, je vais essayer. Alors moi-même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. mais en tout cas, c'était évident pour moi qu'il fallait mettre une note de l'auteur. Donc même moi, éditeur, à moi, auteur, qui s'est parlé à lui-même et qui a dit qu'il faut mettre une note. Vu le thème, on ne peut pas... était hors de question que je mette un jeu entre les mains de gens que je ne connais pas, où il y a quand même un pion cocktail Molotov, où il dit qu'on peut le jeter sur un pion qui s'appelle journaliste, où il y a des pions, charge, interpellation, LBD, qui vont aller toucher des pions qui s'appellent étudiants et syndicalistes. Donc faire ce genre de choses-là sans rien dire, ça, c'était pas possible. Moi, je suis par ailleurs aussi un fan de Cole Worley, qui donc, a fait des jeux comme Road, comme Pax Pamir, ouais. Qui met toujours, enfin je pense à Pax Pamir là particulièrement, et John Company qui met alors qui sont des jeux plus nourris historiquement, etc., mais qui met toujours des notes d'intention pour expliquer ce qu'il fait, comment il l'a fait et comment ça peut ou pas choquer les gens, en tout cas quelle était sa démarche. Et je me suis inspiré de ça, toute proportion gardée. Après, si je peux.
Ouais. Ok. Et en termes de contenu, du coup, alors on a extrait quelques phrases, je vais les citer du coup. Hein. Nous avons toutes et tous en nous un penchant conservateur et un penchant révolutionnaire, une dualité que chacun, chacune gère à sa manière. Pourquoi cette phrase ?
J'aime bien que c'est la première phrase. C'est symbolique. Alors peut-être, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, peut-être qu'elle est un peu tirée par les cheveux comme ça, mais en tout cas pour moi c'est symbolique dans le sens où... Bah, c'est vraiment ce que je dis. En fait, je pense qu'on est dans nos vies intimes et personnelles. C'est là où c'est tiré par les cheveux par rapport au jeu. Mais parce que je ne sais pas qui joue, si la personne qui joue est allée en manifestation, n'est jamais allée en manifestation, y va, pourquoi, avec quelles intentions, dans quel contexte, etc. Et puis quelle manifestation elle vit, à laquelle elle va, enfin, etc. Mais je pense qu'on se réfrène tous, on se limite tous, on s'empêche tous vis-à-vis de valeurs, de morale, de plein de choses qui nous regardent et qui nous limitent, qui sont nos biais et qui font bref qu'on a une vie sociale plus ou moins et qu'on a des rêves de liberté pareil, qui ça veut dire un peu ce que ça veut dire pour chacun et plus ou moins, c'est plus ou moins réel en fait, et donc on a une sorte de dualité un peu permanente, enfin, moi je crois à ça en tout cas sincèrement, et que donc le symbole d'un camp qui voudrait changer quelque chose pour le symbole que c'est face à un camp qui veut absolument garder les choses telles qu'elles sont. C'est ça, en fait, que je veux dire, je crois. À la fois, on rêve de changer nos vies, et à la fois, on veut surtout pas qu'elles changent. À la fois, on voudrait une autre société, et en même temps, c'est tellement compliqué à imaginer des fois qu'on veut quand même y rester. Je sais pas si c'est clair.
Si.
Tu invites aussi les joueurs, via une autre citation, à réfléchir. Donc, la citation, c'était « À vous, si vous le désirez, d'accompagner vos parties de discussion autour de toutes ces problématiques, d'aller chercher des informations et de vous confronter au réel. » Le cortège reste un espace fictif encadré par un livret de règles dans lequel on peut inventer ses propres histoires et ses propres enjeux.
Alors, par où commencer ? Parce que j'ai fait une phrase simple, mais derrière... En fait, moi, souvent, je parle beaucoup trop. Donc là, sur cette note d'intention, j'ai vraiment essayé de resserrer les choses. Je pense que là, je vais sûrement enfoncer deux trois portes ouvertes au passage, mais en tout cas, je pense qu'un jeu, voilà, c'est un jeu est un jeu tant qu'il y a des règles et un cadre et qui est nécessairement fictif, dans lequel on vient faire un loisir hors de sa vie réelle, et que dans certains cas, parfois cette frontière devient poreuse, et du coup, ce qui est jeu n'est plus jeu et devient réel, et donc on sort du jeu. Et à partir de ce moment-là, ce qui est complètement possible avec des thèmes qui sont présents, notamment des thèmes réalistes comme celui-là, c'est évident que selon ce que j'ai vécu de la manifestation, je peux ne plus du tout voir le jeu et juste voir la manifestation, et du coup, les choses vont changer en fait dans mon rapport à l'expérience. Donc, c'est pour repréciser que pour moi, c'est avant tout un jeu. Et que quand je dis de raconter ses propres histoires, parce que je pense que c'est ce qu'on fait dans un jeu. Par exemple, je sais qu'il y a un ami qui joue avec sa fille, qui est jeune, et il m'a dit, récemment, ils ont transformé le jeu, et c'est devenu l'école qu'il fallait protéger, il y avait la maîtresse, je sais plus quel pion était devenu quoi. Voilà, donc, moi j'étais très content d'entendre ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre ce jeu d'une certaine manière. Je sais que le jeu est arrivé à Dakar, puisque j'ai eu des joueurs qui m'ont contacté via Facebook pour me dire qu'ils l'ont fait venir au Sénégal et qu'ils adorent le jeu et que, oh là là, il est hyper international. C'est ce qu'ils m'ont dit, j'étais très content de l'entendre, parce que moi je le défends depuis le début, je ne pense pas que ça soit un jeu français.
Ouais.
Ça, je sais pas si, voilà. Donc c'est en ce sens-là. Après, voilà. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est que j'ai essayé de mettre suffisamment de symbolisme, d'où aussi la non-illustration du bâtiment. Ça a été aussi un truc qui a traîné un petit moment. Au début, on se demandait comment illustrer ce bâtiment, ce lieu où on décide de pénétrer, de prendre l'assaut, comme je mets sur la quatrième de couverture, dans une sorte de petite tension faussement dramatique. Bah, c'est pareil, en fait, si on l'avait illustré, on aurait défini en fait cette réalité, et on aurait défini un certain point de vue d'un certain lieu. Et donc, en fait, je me suis dit, mais non, il faut que ça soit un cercle bleu, il faut que ce soit ce qu'on veut.
C'est un peu pour ça, au final, que tu n'as pas revendiqué ni un parti pris, ni quelque chose de plus... Parce que tu le dis, il y a quand même pas mal de symbolisme dans le jeu. Quand on regarde la couve, ça fait quand même un peu penser à des rues de Paris, je trouve. C'est les oppositions, on a du bleu pour les conservateurs, du rouge pour les manifestants. Ça fait quand même un peu penser à gauche-droite. Ah, et après, bon, bah, clairement, il y a des journalistes, il y a des syndicalistes, voilà, quoi. Donc, il y a quand même, surtout que le jeu, il est sorti dans un contexte de manifestation contre la réforme des retraites. Ça fait beaucoup quand même pour, et pourtant, bah, le jeu, comme tu nous le décris, hein, tu vois, il semble pas ni prendre parti, ni, d'un autre côté, quand on t'entend, on a l'impression que toi, t'as un parti pris. Et pourquoi ne pas l'avoir affiché? Pourquoi ne pas avoir, du coup, effectivement, peut-être pencher la manette plus d'un côté que de l'autre? Je sais pas.
Moi, j'ai voulu créer un espace où les joueurs et les joueuses peuvent venir se positionner. Et pas un espace où moi, j'affichais ma position. En tout cas, c'est la volonté de cette histoire, c'est le parti pris de cette histoire. Sauf que ma position n'est pas inexistante, et donc en filigrane au travers de l'édition, je l'ai mise. Et effectivement, il y a ses couleurs, il y a un certain sens de l'illustration générale du plateau, il y a une certaine vision de cette opinion symbolique. Pour la petite histoire sur la tranche, dans l'illustration, il y a Valentin et moi en manif à Nantes. On a fait quasiment toutes les manifs de la saison, j'ai envie de dire, de retraite à Nantes.
La saison de manifestation,
bah franchement, à la fin, c'était vraiment ça quand même. En tout cas, à Nantes, ça a été bien, bien vivant. Donc voilà, ça, c'était une petite surprise de Valentin. Donc, qu'on était tous les deux. Donc les choses sont là. Oui, je pense. Mais voilà, je pense que vraiment le cœur du truc est là. Je crois que je voulais poser un espace de débat, un espace de questionnement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas politisés. Il y a beaucoup de gens qui vont pas en manif. Et il y a aussi des gens qui ont fait des gros trucs de gauche, mais il y a des gens de droite aussi qui ont dit. Moi, j'ai des festivals, j'ai des animations où il y a des gens qui me disent « Bon, alors, le casseur, là, comment ça marche, son truc ?» Et je dis « Mais c'est pas un casseur, en fait. » « Oui, oui, enfin, c'est pareil. » Donc, voilà, chacun sa représentation. Mm-hmm. Peut-être c'est la part d'ego, mais du coup, j'ose espérer que tout le monde puisse jouer à jeu et que ça puisse venir poser des questions à tout le monde, que ça puisse créer des discussions familiales, que ça puisse créer des discussions de couple, que ça puisse aussi, en soi, et pour moi, c'est aussi complètement possible, et ça doit de toute façon l'être, que ça soit que le thème disparaisse aussi, et que les gens le fassent disparaître, et qu'on soit sur une ligne rouge, un cercle bleu, des effets, des palais, et qu'on joue un jeu, et qu'on se rentre dedans, et puis voilà, et que ça soit plus drôle que ça n'est dans la vie réelle.
Et voilà. Ça te dérange pas, du coup? C'est pas un problème pour toi, du coup, que les gens puissent y jouer, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a des pions jaunes, il y a des pions rouges, des pions bleus, et puis il faut aller dans une zone.
De toute façon, je le maîtrise pas, ça. Une fois que le jeu est dehors, il est plus à moi. C'est plus mon jeu, c'est au jeu de la personne qui l'a. Quand ça devient l'école, j'y suis pour rien. S'ils prennent le palais et qu'ils décident de le jeter sur une planche en bois, après ils font ce qu'ils veulent.
Et donc, t'as pas peur aussi que ça puisse être compris à l'envers ?
C'est pour ça que j'ai mis la note d'intention au maximum, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé d'écrire là ce que j'avais à écrire qui me semblait important pour donner une sorte de ligne directive, de cadre.
Après, la sensibilité de chacun de...
Ouais, la sensibilité de chacun de se l'approprier. Après, je pense que quand même, comme tu le dis, comme vous le dites, on sent quand même une...
Une patte derrière.
Une certaine patte derrière, et ça accroche ou ça accroche pas. Et après, on est aussi sur... on parle de gens qui ont le jeu, donc du coup, comment est-ce qu'ils l'ont obtenu, le jeu ? Donc, c'est toujours la même histoire, en fait. Est-ce qu'ils sont dans une boutique ? Est-ce qu'ils l'ont eu via un festival, une animation où moi j'étais présent ? Alors, si une animation où moi j'étais présent, de toute façon, on est sur un truc très particulier. Si c'est en boutique, ça veut dire que soit ils sont tombés dessus par hasard parce que la boutique l'a mis en facing, soit parce que le vendeur ou la vendeuse l'a conseillé. Et à partir de là, ils ont dit les mots pichetel, les mots manifestation, les mots jeux stratégiques, ils ont vu la couve. Donc, de toute façon, s'ils sont arrivés jusqu'à l'acte d'achat, il y a déjà tout un chemin qui les concerne et sur lequel j'ai pas d'impact.
Justement, t'as choisi de parler de tout ça à travers un jeu. Est-ce que tu aurais pas pu utiliser un autre média ? Est-ce que c'était... Pourquoi cette volonté de parler de ça à travers un jeu, justement ?
Je crois que c'est vraiment une histoire de circonstances. Au moment où il y a eu le workshop le week-end à Nantes, moi, je venais d'arrêter l'activité de maraîchage. Je voulais faire autre chose. Je me suis dit, allez, on rechange de vie, on fait un autre truc. J'avais très envie d'aller dans le ludique. Je travaillais à la boutique à ce moment-là depuis 2 ans, je crois. J'y prenais du plaisir. J'adore le jeu, je joue beaucoup, toutes les semaines, a priori. J'avais envie de faire un jeu. Ce week-end est arrivé, cette idée est arrivée, c'est venu là, j'ai suivi, voilà. J'ai suivi le truc. Et du coup, quitte à rajouter un jeu à cette industrie foisonnante, et on est au bon endroit pour s'en rendre compte, et donc maintenant je fais partie de ce truc, parce que j'en rajoute un, ce qui est parfois un peu contradictoire pour moi, j'essaie au moins de rester sur un thème contemporain, politique et actuel. Et je crois que c'est la lignée que je vais tenir, essayer de m'efforcer de tenir sur ça et les créations d'après, voilà, tant que j'ai envie de faire des jeux.
Et du coup, tu penses que c'était effectivement le bon média, a posteriori, pour parler de ça ?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Pour parler de la manifestation, pour parler de l'altercation, pour parler de violence policière, pour parler d'utopie, de changement de société, pour aller loin là-dedans, non. C'est un jeu. Non, c'est pas assez. Il n'y a pas assez d'espace de parole, il n'y a pas assez d'espace de discussion, il n'y a pas assez d'espace d'écoute. On a un règle, un cadre qui dure un quart d'heure. C'est un jeu d'un quart d'heure. Donc non, c'est un jeu. Ça reste d'abord un jeu, et du coup, c'est un moment ludique. J'ai à la fois l'espoir et l'intention que ça puisse être utilisé pour aller un peu plus loin, mais je suis pas non plus... C'est un jeu d'un quart d'heure.
Voilà. Pourtant, tu dis que tu veux quand même continuer dans cette lignée, donc c'est un peu contradictoire, du coup, ce que tu nous dis.
Peut-être. Bah, plus ou moins, ça m'empêche pas d'après d'avoir ces... Là, ce qu'on fait là, par exemple, c'est autour du jeu, une interview comme on est en train de faire. Pareil, quand je faisais mes livres photos, parfois, je faisais des interventions, des débats ou des projections, et on pouvait aller un petit peu plus loin sur un temps un peu défini avec un certain groupe de personnes. Donc, c'est une façon d'accompagner le propos un petit peu plus loin, ce que je crois, j'espère qu'on peut en train de faire là, ça fait partie de ça. Et puis sinon, dans ma vie, autour du jeu, après, j'ai des discussions, après, je vais en manif ou pas, enfin, après, je fais d'autres choses.
Parce qu'il y a, enfin, t'as conscience qu'il y a une scène engagée qui est en train de naître dans le monde du jeu de société. T'as parlé de Cole Werle, qui est sûrement un pionnier, en tout cas un pionnier dans la scène contemporaine. Il y a sûrement eu des choses avant, hein, j'en doute absolument pas. Il y a un mouvement qui semble s'engager aussi en France. Je peux comprendre qu'il y avait un petit groupe qui avait l'air de se monter, je dis pas de bêtises, plutôt du côté de Rennes, pas très loin de chez toi d'ailleurs.
Bah, j'y étais en fait. C'est le collectif du jeu engagé. Et donc okay. À Rennes en jeu, justement, ça, on a été tous regroupés avec les tabonquiers, notamment Johan Brogol de Subverti. Il y a Coco Cherry avec On lâche rien, hein, qui est dans une thématique similaire, hein, à la mienne. Le collectif Adventure, et je vais oublier un peu tout le monde parce que voilà, je m'excuse d'avance. Mais du coup, ouais, il y a tout un collectif qui essaie de se monter, ou tout du moins de parler d'engagement du jeu, alors que ce soit sur le thème ou sur la création, sur la façon de fabrication des jeux, des choses comme ça, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est pas paradoxal, c'est-à-dire que je pense toujours que en tout cas, c'est intéressant que le jeu puisse être vecteur de discussion et d'engagement et d'afficher quelque chose. Mais je pense aussi d'une autre manière que ça reste un ensemble de divertissement sur du papier, du carton et un peu de bois en 2D sur une table dans un certain temps de nos vies à tous qui sont beaucoup plus larges que ça. Donc en fait, je sais pas si c'est paradoxal, pour moi, c'est une sorte un petit peu réaliste.
Du coup, avec les éditions du silence, tu veux continuer à transmettre des messages comme ça et à parler de tes convictions et de tes valeurs. T'as des projets pour la suite ? T'as d'autres choses qui vont arriver ?
J'ai lancé le développement du jeu d'après.
Ouais.
Et j'ai un bouquin qui est entre guillemets au point mort depuis le cortège, parce que c'est ce que je devais faire. Puis finalement, avec le cortège, ça a pris toute la place. Donc le bouquin, pour l'instant, Je l'ai beaucoup avancé, on verra. Ça n'a absolument rien à voir, évidemment. Je peux le dire là, ça n'a rien à voir, mais c'est des photos de Mongolie quand j'étais en Mongolie. Et c'est un bouquin dans lequel je veux parler de mon alcoolisme. Ça n'a absolument rien à voir. Mais on reste sur des enjeux intimes et des silences intérieurs. Mais le prochain jeu, c'est sur le maraîchage.
Ok.
Voilà.
D'accord. Donc un sujet que tu maîtrises bien.
Dans une certaine mesure, mais en tout cas un sujet qui me tient à cœur, qui pour moi est aussi très politique, c'est même pour moi un des premiers gros actes politiques de ma vie finalement, l'alimentation. Comment D'accord. on nourrit les gens, avec quoi? En respectant comment la terre et l'environnement.
Ouais, ça parle un peu d'agriculture. Justement, Cargo, il nous a demandé un truc, il nous demandait s'il y avait une extension qui allait venir pour le cortège, avec, des chars et des tracteurs par exemple.
Non, il n'y a pas d'extension prévue. On a forcément, on peut déconner, on imaginait certaines, une extension barricade, une extension. Non, mais je crois que j'ai pas du tout envie de jouer à ce jeu-là. Je pense que je me suis efforcé de faire un jeu qui tient debout, qui est resserré, qui est très resserré, qui est court, qui a des règles simples. Enfin, j'espère qu'elles sont simples en tout cas, et qui, voilà, je pense qu'il a pas besoin d'aller au-delà de ça.
Très bien.
Eh ben, merci beaucoup Dorian pour toutes les réponses que tu as apportées à nos questions.
J'espère
pour cette interview.
Merci à tous les deux.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous pouvez trouver toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.